nous avons rencontré Sigolène, chercheuse au LIFI, laboratoire interdisciplinaire de physique, sur le campus de Saint-Martin-d'Air.
J'ai commencé sur un parcours pas forcément très linéaire par rapport à certaines personnes, à savoir que j'ai fait une école d'ingénieur, donc j'ai fait un bac S. J'ai fait ensuite une prépa scientifique et ensuite une école d'ingénieur. J'ai été acceptée dans une école d'ingénieur à Lyon, une école généraliste, qui a priori ne me préparait pas forcément à la recherche fondamentale. Je ne me suis pas vraiment trouvée en école d'ingénieur, ça ne m'a pas trop plu en fait, pour dire comme ça. Donc ce qui était bien, c'est que ça ne m'a pas fermé de porte, en tout cas, c'était formateur. J'ai fait mes 3 ans d'école d'ingénieur et donc en dernière année d'école, j'ai choisi de partir à l'étranger pour faire de la recherche, et on m'a laissé le champ libre pour le faire, ce qui était déjà bien. Donc j'ai profité du programme Erasmus pour partir en Angleterre, à Bristol, dans un laboratoire que j'avais trouvé moi-même, qui faisait une recherche qui m'intéressait. L'expérience Erasmus, je trouve qu'elle fait grandir, entre guillemets, mais elle est formatrice à plein de niveaux, au niveau personnel, au niveau professionnel, parce que elle permet, je pense, pour pas mal de gens de s'émanciper de plein de choses. Bon, souvent de la proximité de la famille, des parents, des amis. Donc, on est obligé un peu de se bouger, entre guillemets, de vivre tout seul. Mais elle permet aussi de s'émanciper du système français qui est très cadré, très linéaire, très scolaire, dans lequel les gens, en général, ne prennent pas le temps, justement, de faire autre chose, de se poser, de prendre une année de césure. C'est vraiment pas dans la culture française pour l'instant. Du coup, avec Erasmus, on voit qu'il y a d'autres façons de fonctionner. On rencontre des gens qui viennent de plein d'autres pays européens, voire partout dans le monde. On se rend compte que chez eux, ça ne marche pas forcément pareil que chez nous, qu'ils ont voyagé, qu'ils ont fait des petits boulots, Voilà, donc ça ouvre l'esprit dans ce sens-là. Et effectivement, on a peut-être plus de temps libre pour réfléchir à ce qui nous plaît, ce qu'on veut faire. Et moi, dans mon cas, par exemple, en Angleterre, c'est vrai que j'ai aussi découvert un système qui était plus flexible, dans le sens où on pouvait vraiment choisir les cours qu'on voulait, les options qu'on voulait, de façon vraiment super ouverte, même dans plusieurs départements de l'université. Et je pensais pas que c'était possible, et ça m'a permis de prendre des cours que j'aurais sûrement jamais fait en France. Je pense que je suis probablement pas la seule dans ce cas-là, mais je pense que Erasmus, ça donne peut-être un peu aussi le goût de partir à l'étranger. En tout cas, ça débloque. On a moins l'appréhension d'aller dans un endroit différent et tout ça. En tout cas, dans mon cas, moi, j'avais vraiment hâte de pouvoir repartir. Donc, je suis rentrée, j'ai fait ma thèse en France, à Strasbourg. J'avais aussi eu le goût de la recherche, donc je voulais continuer. J'ai fait une thèse en France. Et ensuite, je suis partie en post-doctorat à l'étranger, comme la plupart des gens. Et j'ai eu une opportunité pour partir aux États-Unis, ce qui n'était pas forcément ce que je voulais faire, mais bon, je me suis dit, voilà, allons-y. Et finalement, je suis restée 5 ans à Boston. J'ai un peu hésité quant au fait de revenir en France ou pas, mais j'ai passé le concours du CNRS et j'ai eu un poste, et c'est un peu difficile de ne pas le prendre, si c'est possible, mais c'est vrai qu'il y a très peu de postes maintenant, donc on se dit que c'est une chance de pouvoir être recrutée. Je suis dans l'équipe DIFCOM, qui veut dire Dynamique des fluides complexes, qui regroupe peut-être une vingtaine de personnes qui travaillent sur différents sujets à l'interface physique-biologie, en fait, avec différents objets d'études. Ça va des globules rouges aux cellules cancéreuses, aux bactéries, pour moi. Et toujours avec une approche physique, en fait, pour essayer de mesurer des choses précises ou de visualiser. Moi, je travaille plutôt sur le comportement d'objets vivants aux interfaces. Et donc, dans mon cas, les bactéries, j'essaye de comprendre comment est-ce qu'elles interagissent avec une surface, plus spécifiquement comment elles adhèrent aux surfaces qu'elles rencontrent. Et c'est un sujet qui est assez, qui a des applications assez concrètes, parce que l'adhésion bactérienne pose beaucoup de problèmes sanitaires en particulier, industriels aussi. Concrètement, les bactéries vont contaminer toutes les surfaces à peu près de notre environnement. Et quand c'est des bactéries pathogènes, dans les hôpitaux par exemple, c'est vraiment lié de façon importante aux maladies nosocomiales, Parce qu'on sait que quand elles sont sur une surface, elles ont tendance à former des grosses colonies de bactéries qui s'appellent des biofilms, et on a beaucoup de mal à les combattre, notamment avec les antibiotiques existants. C'est très très lié à l'antibiorésistance. Moi je suis CNRS, donc il y a deux statuts dans les laboratoires. Soit on appartient entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est payé par le CNRS, soit on est rattaché à l'université. Et donc quand on est rattaché à l'université, c'est-à-dire qu'on est maître de conférence ou professeur, on a une charge d'enseignement qui est assez lourde d'ailleurs. Et si on est CNRS, par contre, on n'est pas obligé d'enseigner. Donc on peut le faire si on veut, beaucoup de gens le font un petit peu, ça peut aussi varier d'une année sur l'autre, mais on peut se consacrer à la recherche à 100% si on veut. Mais c'est mon cas, oui. L'objet que j'affectionne le plus au quotidien, on va dire, et qui pour moi a gardé en fait un peu sa magie, même si je m'en sers quasiment tous les jours, c'est la boîte de Petri. Donc c'est cette petite boîte ronde qui est remplie d'un milieu nutritif qu'on a solidifié avec de l'agar. Donc c'est très simple. Et c'est ce qu'on utilise pour faire pousser les bactéries. Donc en fait, on étale dessus une petite goutte de solution de bactéries, on va dire. Et en le laissant incuber à 37 degrés, typiquement, on voit en quelques heures, ou au maximum en une nuit, on voit apparaître des colonies bactériennes. Donc en fait, c'est ce qui permet de révéler à l'œil nu, j'ai envie de dire, oui, de révéler la présence de bactéries qu'on peut normalement pas voir, mais qui vont se multiplier très rapidement sur la surface du gel nutritif et former des colonies qu'on va pouvoir voir à l'œil nu. Et typiquement, je trouve que c'est toujours magique de voir les bactéries apparaître, en fait, parce que se multiplier et apparaître sous la forme de petits tas sur l'agar. J'ai envie de dire, j'avais l'habitude de me sentir dans un environnement plutôt masculin. Parce que effectivement, que ce soit en classe préparatoire scientifique ou en école d'ingénieur, on était probablement, oui, peut-être à peu près une fille sur cinq, je pense, à peu près. Donc ça m'a pas choquée. En passant, par contre, dans le milieu de la recherche fondamentale plutôt, et à la faculté, à l'université en Angleterre, je pense qu'il y avait plutôt plus de filles. Je suis aussi passée de la physique et de l'ingénierie à plutôt à la chimie. Et donc là, il y avait plus de filles en Angleterre, je dois dire. Il y a plus de filles en chimie et en biologie qu'en physique. Je ne sais pas pourquoi, mais tout en gardant une majorité de garçons. Il y avait quand même plus de garçons que de filles. À mon avis, pour qu'il y ait une parité homme-femme, il va falloir très longtemps. Et surtout pour qu'il y ait une parité homme-femme chez les directeurs de recherche et les professeurs, c'est-à-dire ceux qui sont les plus gradés, je pense qu'il va falloir vraiment très 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 longtemps. Là, le jour où on aura un congé paternité équivalent au congé maternité, et le jour où les hommes seront enceints. Non, parce que c'est dur, parce que c'est là que c'est au moment des grossesses, je pense, c'est des congés maternité que l'écart se creuse, en fait. À mon avis, ce qui serait bien, c'est qu'il y ait un congé maternité et un congé paternité, que ce soit pas l'un ou l'autre qui prennent le congé, parce que la mère va toujours, souvent en tout cas, vouloir prendre le congé maternité. Mais ça serait bien qu'il y ait un congé paternité en parallèle, pour que les deux parents soient impliqués dès le début. Au CNRS, on a quand même la chance d'avoir un peu plus de liberté. On est un peu notre propre patron, presque au quotidien. On peut en tout cas organiser nos jours comme on veut, et on n'a pas vraiment de compte au quotidien à quelqu'un, donc souvent c'est plus flexible, sachant que la contrepartie, c'est qu'en général, on est quand même passionné par notre métier et qu'on a hâte de revenir continuer nos manips parce qu'on est passionné par notre travail. Donc c'est rare, j'ai jamais vu personne qui prenait un congé maternité étendu d'un an ou deux ans. J'ai jamais vu ça, sachant qu'on peut se mettre à 80% ou à mi-temps pendant quelques temps, mais on a envie de revenir au travail. Ça, c'est plutôt chouette, oui, d'avoir envie d'aller travailler. Ouais.